pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, vous nous faites part d'une expérience intime qui vous est arrivée hier.
Oui, ça s'est passé hier soir dans mon lit.
Attention.
Oui, attention, non mais rien de grave, rien de grave. J'étais en train de lire un roman et d'un coup, je me suis vue en train de compter le nombre de pages qu'il me restait à lire. Alors ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, j'imagine en plus que c'est arrivé à pas mal de monde. Ce n'est pas un geste fou, ni un phénomène de société, c'est quelque chose de banal qu'on fait sans s'en rendre compte. Mais pourquoi le fait-on quand même? Pourquoi calculer, chronométrer ce qui devrait relever de l'incantifiable plaisir de la lecture?
C'est vraiment joli ici. J'aimerais bien venir de temps en temps pour me reposer.
Cette cabane vous appartient, comme tout le reste ici.
Ça s'est donc passé hier soir, vers 22h30. J'étais en train de lire un roman de David Herbert Lawrence, l'auteur du bien connu « L'amant de Lady Chatterley ». Coïncidence, Lawrence aurait eu 134 ans pile aujourd'hui. Mais 134 ans, c'est aussi le temps que m'a semblé durer son livre que je lisais donc hier soir. Ce livre, c'était « La fille perdue », d'abord paru en 1920. Dans ce texte, on suit Alvina, héroïne typique du romancier qui annonce d'ailleurs Lady Chatterley. Son cœur balance entre ses origines bourgeoises anglaises et l'appel des sens et de la passion pour un bel Italien décrit comme un animal sensuel. L'histoire est prenante, l'héroïne pas conventionnelle, l'écriture assez drôle, il y a beaucoup d'ironie dans ses portraits et de satire dans sa description de la province anglaise décadente.
Alors qu'est-ce qui s'est passé Géraldine? Tout a l'air de bien se passer jusque-là.
Jusque-là plutôt pas mal, mais au bout de 200 pages, le livre en compte 537, j'ai commencé à trouver le temps long. Mais je me suis accrochée. Peut-être était-ce seulement un passage un peu moins palpitant du récit, ce qui peut arriver. Ou alors un coup de mou de Lawrence. J'étais persuadée de retrouver le plaisir des débuts. Mais non. Très vite, j'ai donc commencé à compter le nombre de pages qu'il me restait à lire, tout en continuant à lire. Et pourquoi? Pourquoi me suis-je accrochée malgré tout? Certains diront syndrome du bon élève, on finit ce qu'on a commencé. D'autres diront masochisme, d'accord. Mais je crois qu'il y a plus que l'explication de la bonne élève maso. Pourquoi vouloir finir à tout prix un livre qui pourtant nous ennuie.
Je vivais dans la littérature et tout d'un coup, c'est peut-être parce que Lawrence a écrit si bien sur les sentiments de la femme, il a éveillé la femme en moi. L'Amérique très puritaine ne l'avait pas fait, la littérature anglaise ne l'avait pas fait, mais Lawrence, qui était justement un révolutionnaire dans ce sens, qui décrivait les sensations, l'instinct, l'intuition, m'a beaucoup frappée.
Le premier texte publié de l'écrivaine Anaïs Nin portait justement sur Lawrence. On y retrouve ce qu'elle dit dans cette archive, le romancier est celui qui a éveillé la femme en elle. Ce qui, je dois le dire, n'est pas mon cas, vous l'aurez compris. Pourtant, finir le livre de Lawrence n'a pas été non plus une torture. En fait, je l'ai plutôt vu comme un long moment d'ennui. D'où ma question, pourquoi s'entêter à achever un livre qui n'est ni l'enfer, ni le paradis, mais un peu entre les deux, tiède, intéressant mais sans plus. Pourquoi ne pas décider de le refermer ou alors de s'y jeter à corps perdu? Je trouve que c'est une question en fait qui se pose plus souvent qu'on ne le pense. Elle se pose à chaque fois qu'on doit juger une œuvre d'art qui ne procure ni déception ni ravissement, ce qui arrive en fait régulièrement. Et ça, les théories de l'art en parlent peu. Elles parlent de beau ou de laid, d'agréable ou de dégoût, mais que faire de ce sentiment de médiocrité qu'on éprouve souvent en lisant ou alors face à un tableau ou un film? Est-ce à nous, pauvres spectateurs de l'art, de nous mobiliser ou aux auteurs de se remettre eux-mêmes en question?
J'essaie de faire des livres que le lecteur ne lâche pas. Et c'est très difficile. Mon expérience, quand je lis surtout des livres de sciences humaines, c'est que je lâche très vite. Parce que j'ai le sentiment qu'on ne s'occupe pas de moi, qu'on ne crée pas des surprises, qu'on ne me fait pas rire. Et en permanence, je me pose la question de savoir comment faire pour que le lecteur ne s'en aille pas.
On doit à Pierre Bayard, en plus de cette excellente remarque sur le suspense dans l'écriture, un excellent essai sur comment parler des livres qu'on n'a pas lus. Eh bien, j'aimerais maintenant qu'il me dise comment parler des livres qu'on a lus, mais que l'on n'a ni aimé, ni détesté. Peut-être est-ce la faute des écrivains qui feraient bien de faire plus de livres que le lecteur ne lâche pas. Peut-être est-ce de la nôtre, lecteurs qui avons trop d'attentes. Nous voulons de l'intensité, une révélation, une phrase qui nous marquera à jamais. Écrivain ou lecteur, on attend en tout cas d'un livre qu'il marque. Mais que faire des autres livres, de tous ces livres qu'on a réduits à leur nombre de pages? Je lance donc un appel aux philosophes. Dites-nous que penser et quoi faire de ces œuvres sans qualité.
Merci Géraldine d'attirer notre attention sur ce point qui, d'ailleurs, ça concerne aussi les films. Hein. On regarde un film et on se dit au bout de 30 minutes, il reste
les
encore
albums
une
de
heure,
musique.
Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, c'est ça. L'ennui dans l'art.
Exactement, c'est un bon sujet à traiter en philosophie.
Bon, en attendant, on peut réécouter votre chronique, hein, on est sûr de ne pas s'ennuyer.